BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le club BFM Crypto, en direct comme tous les jours entre 15h et 15h30. On va parler de stablecoin, on va parler de monnaie numérique, de banque centrale, on va revenir sur l'appareil Blockchain Week parce qu'on ne l'a pas fait dernièrement sur BFM Business. On va aussi beaucoup parler de la sécurité de nos données, de nos comptes, comment améliorer notre situation. Avec mes invités, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie.
Bonjour Sandra.
Ravie de vous avoir sur ce plateau. Romain Chilly est également avec nous, partenaire chez Orwell. Bonjour Romain.
Bonsoir.
Et Charlie Méraud, cofondateur de la Paris Blockchain Week.
Bonjour.
Ravi de vous avoir également sur le plateau. Vous continuez à nous écrire, vous le savez, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur les cryptos à cette adresse, crypto au singulier de bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30 à toutes vos questions. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va parler de sécurité, on va faire un petit bilan de l'appareil Blockchain Week, mais avant ça, on va parler de stablecoin, Nathalie Janson. Oui, non, ça avance énormément. Et vous avez lu un article du Financial Times qui dit que les stablecoins utilisés à très grande échelle pour le règlement des transactions financières, finalement, ce ne serait pas forcément possible.
Oui, en fait, on voit qu'on essaye de contrer, vu le succès des stablecoins ces dernières années,
avec le Genius Hack.
Donc, ouais. Effectivement, il y a beaucoup de promesses. On attend beaucoup de choses prometteuses pour l'activité des stables. Et en fait, cet article vient un peu... Enfin, celui qui l'écrit, évidemment, est plutôt du côté des régulateurs et des officiels. Mais il vient refroidir un petit peu les ardeurs de ceux qui pensent que ça va être le grand concurrent pour le paiement des règlements internationaux, en disant attention, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais.
Parce que effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation actuelle des règlements internationaux, pour en fait participer à ce mouvement de règlement sur les marchés des titres, enfin de faire vraiment partie des grandes activités internationales, ce qui tient la place, ce sont les systèmes de compensation qui sont Euroclear. Enfin, il y a plusieurs chambres de compensation. Ces chambres de compensation ont vu leur rôle s'accentuer après la crise de 2008, parce que la crise de 2008 a mis en exergue le fait que Lehman Brothers était donc avait beaucoup de contreparties non centralisées.
Ouais.
Et à partir de là, les régulateurs ont dit, nous, maintenant, on veut des contreparties centralisées. Donc, ça a été effectivement le grand développement. Enfin, en tout cas, on a favorisé ces plateformes donc, de compensation officielles. Pour faire partie de ces compensations, de ces chambres de compensation internationales, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut soit avoir accès à une monnaie à la monnaie banque centrale, soit effectivement, pouvoir montrer qu'en fait on a certains critères de stabilité et de gouvernance qui vont satisfaire l'admission à ces chambres. Et c'est là où effectivement le bât blesse pour nos stablecoins comme Tether, Circle et d'autres plus petits, parce qu'en fait ils ne passeraient pas ce test-là, donc ne pourraient pas être admis à cette partie de l'activité.
C'est voilà. Une réalité, les stablecoins et les infrastructures et par rapport à la quantité que ça représenterait ne sont pas assez sûrs.
En tout cas, ils ne sont pas admissible. Donc c'est là où l'article est un peu ambigu, parce qu'en fait c'est pas tellement qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'on les a pas testés sur ce point, c'est qu'en fait ils ne seraient pas admis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tels qu'ils sont aujourd'hui avec le Genius Act, et ils n'ont pas accès directement à la monnaie banque centrale, qui est donc la monnaie auprès de la Federal Reserve si on prend pour les stablecoin dollars, puisqu'ils n'ont pas accès au fameux master account de la Fed. Mais même s'ils y avaient accès, parce que on en avait parlé il y a quelques mois, on avait eu la news que Kraken avait, à travers une de ses filiales, avait accès en fait à ce master account désormais. Donc ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on fait partie de cet univers qu'on n'a pas accès. Donc là, en l'occurrence, eux ont eu accès, mais même cet accès en fait ne garantirait pas leur admission en fait à ces chambres de compensation, parce qu'il y a tous les autres critères auxquels ils doivent se soumettre à ces critères pour pouvoir y entrer. Et pour le moment, ils n'y satisferaient pas.
Est-ce que ça veut dire que, parce que l'auteur veut en venir, c'est que il parle après de l'utilité d'une monnaie de banque centrale tokenisée
ou numérique. Donc on voit bien qu'il a choisi son camp et qu'évidemment ces monnaies-là pourraient répondre davantage aux règlements internationaux.
Et donc en fait on reboucle avec une problématique qu'on discute souvent sur vos plateaux
et qu'on connaît bien en Europe.
Et qu'on connaît très bien en Europe, puisqu'en fait on voit bien que effectivement les banques centrales sont pas dupes et savent très bien qu'elles ont il y a quelque chose à jouer sur le paiement au niveau du paiement international, au niveau des compensations, au niveau des autoroutes de paiement international, que pour être efficace, la blockchain peut être beaucoup plus efficace que les paiements, leur système actuel, mais que pour le moment, en tout cas, les formes privées ne peuvent pas leur damer le pion. En fait, c'est ce que l'auteur de cet article clairement explicite. Il dit voilà, en l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas rivaliser, à moins qu'effectivement une grande partie des transactions en fait sur le marché financier se déplacent tout d'un coup sur via les stablecoins, mais ça j'en doute, parce que en fait ça voudrait dire qu'ils auraient eux-mêmes qui décideraient de faire sécession et de faire procéder des paiements directement via les stablecoins, ce qui est aussi possible, mais ce qui dans l'état actuel, je pense pas que les grandes banques ou les grands acteurs se mettraient à faire ça.
Comme à chaque fois qu'on parle de ce débat entre les stablecoins et les banques les monnaies numériques de banque centrale, faut regarder un peu qui est l'auteur en effet et de quel bord il est. Daniel Heller, il est ancien chef du secrétariat du comité des paiements et des infrastructures de marché de la Banque des règlements internationaux, ancien directeur exécutif du FMI, donc évidemment.
Oui, et lui, il est donc très en faveur, puisque pour resituer, la Banque des règlements internationaux aujourd'hui n'arrête pas de faire des tests de paiement sur le plan international. Il y a des hubs régulièrement qui sont testés avec la Chine, avec plein de pays, donc on voit bien qu'en fait, ils essayent de faire la promotion de ce qu'ils veulent, ce sur quoi ils veulent aboutir, c'est-à-dire éventuellement une blockchain au niveau des banques centrales pour en fait faciliter les autoroutes de paiement internationaux.
Là aussi, finalement, aux États-Unis, c'est très politique. C'est comme en Europe.
Oui, complètement. Mais sauf qu'effectivement, là, on ne dit pas que c'est la banque centrale américaine, mais en tout cas, on remonte d'un cran et on dit que c'est le système de paiement international bénéficierait d'avoir une blockchainisation de ces routes.
Est-ce que ce genre d'argument, pour finir, Nathalie, ça peut freiner le développement, finalement, des stablecoins qui sont partis depuis 2025 très très haut en termes de valorisation?
En fait, pas forcément, parce que leur succès, il est quand même dû à leur côté pratique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont résolu des problèmes pratiques. C'est quand même ça qui a fait leur succès. Aujourd'hui, on est en train de leur dire, voilà, le fait de passer à une étape supérieure au niveau d'une activité comme les activités de marché n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'ils en sont conscients. À mon avis, c'est pas une surprise qu'on est en train de leur apprendre. Maintenant, rien n'empêche que dans un futur proche, ils y arrivent petit à petit. Mais effectivement, ils ont une barrière à l'entrée aujourd'hui qui est représentée par l'état actuel de la réglementation sur ce type d'infrastructure. Je pense pas que c'est pour eux, c'est pas une question de vie ou de mort pour leur futur.
Quoi qu'il arrive, l'avenir de ce secteur de la crypto est vraiment basé sur la réglementation. On va en parler.
Oui, c'est vraiment des attaques
à tout niveau. Des obstacles réglementaires, voir ce que ça va donner dans les années qui viennent, et ça va très très vite. Est-ce que vous en avez parlé de ça, des monnaies numériques de banque centrale, du développement des stablecoins, de la tokenisation de la finance à la dernière édition de la Paris Blockchain Week? Charlie Méraud, vous êtes cofondateur.
Bonjour, de la Paris Blockchain Week, oui. Alors, on en a évidemment parlé, on fait pas une conférence qui rassemble près de 10 000 personnes à Paris, plus de 250 banques, à peu près tous les pouvoirs publics concernés, toutes les sociétés du secteur en Europe et qui viennent également d'Asie et des États-Unis, sans parler du sujet des stablecoins. Sur ce sujet très précisément, ce qui est à noter, c'est qu'il y a un enjeu très politique. On oublie souvent de dire que les stablecoins aujourd'hui, vous avez parlé de Circle et de Tether, c'est près de 150 milliards d'actifs sous gestion. Ces actifs-là sont ensuite investis dans des bons du Trésor américains ou d'autres
États. Un petit peu en Europe, mais c'est
voilà.
Un autre...
Voilà. Et donc ça provoque un enjeu politique assez fort, et bien que la réglementation soit l'un des poumons de développement de cette activité, je crois qu'avant tout la genèse, c'est que les institutions ont compris qu'il y avait un enjeu politique pour elles. Les États-Unis ont compris que ça permettait à beaucoup de gens indirectement de financer leur économie. Donc c'est très politique, et donc c'est forcément un sujet qu'on a abordé. Mais pour revenir sur la Paris Blockchain Week, on n'a évidemment pas parlé que de ça. Ça s'organise s'organise sur différents jours avec différents moments forts. Ça commence par un hackathon. Donc là, on revient plutôt, je dirais, à l'essence même de ce qu'est la crypto et la blockchain, avec des centaines de développeurs qui se réunissent et qui, autour de différents challenges, de différents cas d'usage, répondent à des problématiques. Ça s'enchaîne avec un dîner à Versailles avec tous nos intervenants et nos partenaires qui se réunissent pour une soirée assez inoubliable et extraordinaire, encore une fois avec certains ministres qui sont venus.
Et là, il y en a eu, hein. Voilà.
Oui, on a eu le soutien cette année.
Sur ces sujets-là, effectivement. Mais pourquoi je vous posais cette question-là, c'est que finalement, comme vous avez lieu tous les ans, vous êtes un baromètre du secteur et de ses transformations et d'une année à l'autre. On parle plus de certains sujets parce qu'il y a des cryptos qui disparaissent tout simplement et il y a des tendances qui arrivent.
Tout à fait. Si j'avais une machine à remonter le temps et que je vous conviais à la conférence d'il y a 5 ans, vous penseriez que ce n'était pas le même organisateur, pas la même industrie, pas le même métier. Et pourtant, si.
Beaucoup plus de banques maintenant.
Beaucoup plus de banques. Je disais plus de 250 banques. Sincèrement, avant la conférence, je ne pouvais pas en nommer moi-même plus de 200. Mais elles étaient bien présentes. Elles sont présentes d'ailleurs lors de tous les événements dont je parle. Pas seulement juste pour aller serrer des pinces, entre guillemets, mais également présenter les travaux qu'elles mettent en place. La Société Générale a des projets actifs, live, BNP Paribas également, donc BPCE pour pas faire de préférence. Toutes y réfléchissent et toutes ont des projets qui sont désormais live, utilisables par des utilisateurs, etc. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre en avant que les acteurs français et européens. Il y a également beaucoup de compétition aux États-Unis, en Asie, et donc il faut continuer de se développer. On est là pour les aider à se développer, les aider à montrer leurs travaux, mais il y a encore du boulot en Europe pour être ultra compétitif.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique qui est venue, la France croit aux crypto-monnaies et à la blockchain. Est-ce que pour autant, la France et l'Europe mettent tout en place pour développer ce secteur et pour faire face à cette concurrence des gros pôles, États-Unis, Asie ?
Moi, je ne fais pas de politique. Ce que je peux dire, ce que je fais, c'est raconter ce qui se passe et permettre aux acteurs qui jouent avec les règles en place de se développer le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on fait lors de cette conférence. Il y a MiCA qui va être actif dès le 1er juillet, donc la réglementation propre à l'Europe à laquelle tout acteur doit se plier, y compris les acteurs américains s'ils veulent être opérationnels en Europe. Et donc, ça a eu clairement un impact. On voit ce que ça génère de l'emploi parce qu'ils doivent recruter des équipes sur place, s'adapter aux nouvelles règles pour pouvoir faire du marketing en Europe. Voilà, donc est-ce que c'est bien, est-ce qu'il pourrait mieux faire ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que toute l'industrie a pris conscience de ça et met les choses en place pour pouvoir continuer à opérer en France et en Europe.
Vous parlez de MiCA, c'était une année particulière certainement pour votre événement parce qu'il y a plein d'acteurs qui vont disparaître, qui ne vont pas l'avoir, MiCA, et qui vont effectivement mettre fin à leur activité. Après le 1er juillet, tous ceux qui n'ont pas l'agrément ne seront plus de toute façon en activité. C'est une demande de l'AMF.
Vous l'avez dit, chaque année, on est un baromètre et on représente l'industrie telle qu'elle se porte. Je pense que dans un an, notre conférence aura également beaucoup changé. D'ailleurs, elle changera de nom. Paris Blockchain Week devient Signal Week. Toujours à Paris avec la même logique, mais je crois qu'on doit tous s'adapter, nous y compris. Il y a une vraie institutionnalisation du marché, des acteurs beaucoup plus traditionnels qui rentrent, et donc il faut prendre ça en compte, y compris ce que les régulateurs nous demandent.
Oui, c'est vrai que Nathalie, on a vu le secteur se transformer ces derniers mois de façon absolument spectaculaire. Ce qui est amusant, c'est que vous nous avez dit en off qu'on avait beaucoup parlé cette année à BFM des problèmes de sécurité. Mm-hmm. C'était quand même un thème assez présent cette année, parce qu'il y a un contexte, il y a une situation sécuritaire qui est inquiétante en France.
Il y a des problèmes, les pouvoirs publics tentent d'y apporter des réponses. Encore une fois, je ne fais pas de politique. Ils ont souhaité avoir la meilleure scène possible et le meilleur endroit possible pour être entendus et faire passer leur message. Ils ont choisi le bon endroit, je pense, la Paris Blockchain Week. Maintenant, juger de ce qui est mis en place ou pas, je suis pas sûr d'être la bonne personne. Ce que je peux dire en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a plein de choses à faire en Europe, elles sont faites et il y a des projets absolument formidables, Morpho, Defense, qui existent, qui sont basés en France, qui se développent, qui ont une clientèle institutionnelle et qui malgré tout ce qu'on vient de dire, sont des entreprises ultra compétitives à l'international.
On pourrait avoir quelques géants européens, c'est ce que vous nous dites, notamment
possible,
sur la DeFi.
Oui, je pense que c'est possible. Sur la DeFi, la semaine de la conférence a passé le milliard de valorisation via son token. C'est un projet qui est absolument exceptionnel, que ce soit techniquement ou juste pour l'usage futur j'espère, du commun des mortels. Mais je pense sincèrement que c'est un projet formidable. Et il y en aura d'autres. Et pour ne pas nommer que des Français, Bitpanda est une société européenne qui concurrence avec toutes les plateformes américaines et asiatiques, tout en étant régulée en Europe et en déployant une stratégie marketing hyper agressive, notamment via la Paris Blockchain Week, via Signal Week, mais également dans le quotidien. On les voit sponsors de clubs de foot européens, on les voit sponsors de grandes marques. Donc je pense que oui, il y a des Européens qui peuvent tirer leur épingle du jeu.
Bitpanda qui sera sur ce plateau dans deux jours.
Super.
Faites bien de le mentionner. Effectivement. Sur la sécurité, j'y reviens avec vous, mais évidemment, vous pouvez tous intervenir. Romain Chilly, vous êtes partenaire chez Orwell. On a une situation sécuritaire sur les cryptos qui est inquiétante depuis 2025, une trentaine d'affaires de séquestration ou d'enlèvement en 2025, plus de 40 agressions depuis début de l'année 2026, 90 mises en examen à peu près, dont une dizaine de mineurs dans ces enquêtes. Vous avez à peu près les mêmes chiffres ou ça a encore évolué ces derniers jours, hein, parce que vraiment c'est difficile à suivre. Vous, Sherwell, Romain, vous intervenez de quelle manière déjà pour commencer ?
Nous, on intervient, on est un cabinet sectoriel, donc on intervient sur différents aspects. Et en fait, ce sont des affaires qui matérialisent des problématiques qui sont assez transversales au secteur. Alors, il y a effectivement un sujet d'accompagnement des victimes, des sociétés qui peuvent être concernées par ce type de fait, mais il y a aussi un sujet, je crois, qui est un sujet d'importance, qui est un sujet d'éducation, de lobbying, entre guillemets, sur les mesures qui peuvent rendre possible aujourd'hui ou faciliter la commission de ce type de fait et qui demain pourrait aussi permettre de mieux y répondre. Et à ce titre-là, le dernier sujet en date, c'est le sujet de la proposition de loi qui avait été proposée et fort heureusement qui a été abandonnée en commission mixte paritaire devait conduire à obliger chaque détenteur de crypto à déclarer à l'administration fiscale tous les portefeuilles qu'il posséderait, donc les portefeuilles non hébergés sur lesquels il aurait l'équivalent de plus de 5000 euros en crypto-monnaie. Donc cet abandon, en fait cette proposition était honnêtement assez inique à la fois sur le plan du droit, puisque quand on regarde un peu la jurisprudence aujourd'hui de la Cour européenne des droits de l'homme, en fait ces mécanismes de collecte généralisée, massive de données, en dehors même de toute considération véritablement fiscale, puisqu'il n'y a aucun fait générateur d'imposition lorsque vous envoyez des cryptos depuis
C'est juste pour savoir où est l'argent.
C'est pour savoir. Créer un gros fichier, et ça c'était aussi intéressant quand on suivait les débats, que Bercy, l'administration fiscale elle-même, reconnaissait ne pas être en mesure ou en capacité de pouvoir sécuriser de façon certaine. Donc, si vous voulez, l'abandon de cette mesure est effectivement une mesure de salubrité publique, mais le combat, entre guillemets, ne s'arrête pas là.
Temporaire.
Puisque vous avez à côté d'autres réglementations qui sont en train de rentrer en vigueur, comme la réglementation DAC8, qui crée des obligations déclaratives avec un périmètre de communication de données qui est énorme. Ces données vont être retranscrites au sein d'une infrastructure, technique qui va être créée par la Commission européenne. Est-ce que la Commission européenne, déjà, est-ce que ces données sont toutes des données pertinentes pour les administrations fiscales ? Là aussi, je pose la question, puisque on va devoir, tous les flux entrant ou sortant depuis des wallets sans fait générateur d'imposition devront être déclarés. Et est-ce que, je pose la question, la Commission européenne est en mesure de sécuriser correctement cette infrastructure demain ? On a eu trois problèmes de sécurité majeurs au niveau de la Commission depuis le début de l'année 2026, sur certaines données qui étaient gérées sur le cloud, sur une application que la Commission développait pour la vérification d'identité. Donc, moi, j'invite et je plaide et on plaide chez Orwell pour un changement de paradigme et pour une véritable application du principe de minimisation. C'est le seul principe qui puisse permettre, si vous voulez, de garantir la liberté et la sécurité de façon absolue. Les meilleures données sont les données qu'on ne récolte pas.
Les politiques, à chaque fois, placent face à cela l'argument du blanchiment d'argent. C'est pour ça, en fait, c'est ça qui permet à chaque fois de faire adopter les mesures.
Oui, oui, bien sûr, mais l'argument, en réalité, là, lorsqu'on parle par exemple de la directive DAC8, le véritable objectif, et celui qui est prévu par les textes, c'est celui de lutte contre la fraude fiscale. C'est pas celui de blanchiment.
Oui, c'est vrai.
Et en réalité, cette directive ne permet pas de lutter efficacement contre la fraude fiscale, mais elle met potentiellement les utilisateurs aussi en danger. Je pense que je ne suis pas là pour accuser les acteurs publics d'être particulièrement faibles. C'est juste qu'on a, je pense qu'on assiste aussi à un changement d'époque où n'importe quel acteur, même des acteurs solides, sont sujets aux attaques et aux vulnérabilités. Et ça, ça doit être tenu en compte lorsque vous réfléchissez à des réglementations.
Pourquoi ? Parce que ce problème-là, les chiffres que j'ai donnés il y a cinq minutes, c'est quand même... la France est le pays le moins bien doté, finalement, en tout cas, où il y a le plus d'agressions depuis un an et demi. Donc ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se fait mieux, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni ? Qu'est-ce qui protège mieux les détenteurs, les gros détenteurs de crypto ? Parce qu'en général, c'est eux qui sont attaqués. Que nous ? Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous ? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour se mettre à ce niveau-là de sécurité ?
Je pense qu'il y a deux niveaux. Alors bon, on a quand même une police qui est quand même historiquement et aujourd'hui toujours assez forte pour aller, si vous voulez, enquêter, retrouver les personnes qui sont les acteurs, ceux qui accomplissent les basses besognes. Mais effectivement, là, faut voir, prendre un peu la big picture, comme on dit, et voir ce qui ne va pas par rapport à ce que font les pays analogues. En matière de saisie crypto, par exemple, on voit que des pays, même si on met sur la bonne échelle, des pays comme les États-Unis, des pays comme la Grande-Bretagne font beaucoup plus de saisies crypto, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts dans la lutte et la matérialisation de la lutte contre le blanchiment et contre la circulation de flux illicites en crypto. Et ça, ça passe par à la fois une acculturation des magistrats et des policiers, surtout par un cadre légal qui soit plus pertinent. Le Genius Act, on en parlait tout à l'heure, il crée par exemple une des obligations qui sont très claires pour les émetteurs de stablecoin, de tenir à la disposition des autorités américaines une infrastructure, des capacités techniques pour saisir, geler, détruire des stablecoins. On sait que les stablecoins, quand on regarde le dernier CryptoCrime Report de Chainalysis, sont massivement utilisés pour des cas dans les transactions illicites. Donc, adaptons-nous, réfléchissons aux causes de fond, de l'existence de ces faits de façon plus importante en France et adaptons notre cadre légal.
Est-ce que la réponse et la rapidité de la police, vous en avez parlé, et de la justice, parce qu'on a l'impression quand même, on entend que les malfaiteurs se font arrêter, que les réseaux sont démantelés, ça va quand même, ça prend quelques mois, mais on entend au parquet, ça bouge quand même. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans leur connaissance à eux, ou dans la prise en charge, ou pour éviter que ça ne se reproduise? C'est toujours le même processus.
Je pense qu'il y a là-dessus, effectivement, c'est la clé, c'est d'éviter que le crime paie. Et pour éviter que le crime paie, c'est de faire en sorte que demain, les personnes qui commettent ce type de délit soient désincitées à le faire parce qu'elles savent qu'elles ne pourront plus blanchir le produit de leur infraction. C'est la première chose. Et deuxièmement, il y a aussi un sujet qui est un sujet aussi de colmater les brèches. On a vu que certaines de ces affaires étaient liées pas avec des complicités au sein de l'administration fiscale, d'agents, etc.
Il y en a eu.
J'ai saisi, au nom de la DAN, le ministre de l'économie d'un recours administratif pour solliciter de l'exécutif de nous communiquer toutes les mesures techniques et organisationnelles qui permettent de démontrer à la fois que toutes les personnes qui ont pu être concernées par ces consultations illicites de données ont été informées et des mesures qui ont été prises en interne pour éviter que cela ne se reproduise.
Oui, parce que quand il y a des fuites de données, on en a eu pas mal dans l'année, on ne sait pas si on fait partie, aujourd'hui, on ne sait pas si on fait partie des personnes dont les fichiers ont été...
Effectivement, alors que c'est une obligation, légale.
Il vous signale, pour la dernière en date de l'ANTS, vous receviez un message, soit vous n'en recevez pas. Bon, moi, je n'ai pas reçu, mais je ne suis pas sûre qu'on soit tous au courant. Mais c'est assez... c'est assez inquiétant. Puis le deux poids, deux mesures par rapport au secteur crypto, par rapport au reste du système, et aussi, je ne sais pas pourquoi il y a cet acharnement
de vouloir tout déclarer parce qu'on est dans un secteur crypto. On a l'impression qu'en fait, on a le droit de tout regard sur cette activité, alors que c'est pas forcément le cas sur d'autres activités. Et d'autant plus que l'activité de blanchiment, je suis désolée de le répéter, mais il a toujours lieu plus en cash qu'en crypto, hein, si en proportion. Mmh. Évidemment, la partie crypto, elle a augmenté au fur et à mesure de son utilisation, mais c'est bien le cash qui est, lui, le responsable principal du blanchiment d'argent.
Pour terminer, il nous reste deux minutes, Romain. Sébastien Lecornu a annoncé quand même qu'il allait se pencher sur la question de la sécurisation de ces transactions, de ces paiements.
Oui, je pense que l'État et le gouvernement se rendent petit à petit compte du fait qu'ils sont aussi concernés par ces failles de sécurité, mais comme le sont, j'ai envie de vous dire, tous les acteurs, privés comme publics, et c'est pour ça que je me permets de répéter, alors faire des audits, mettre du budget, tout ça, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens, mais en matière de sécurité informatique, et d'ailleurs les textes, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a jamais de risque zéro. On le voit qu'aujourd'hui, avec le développement d'outils d'intelligence artificielle qui sont en capacité de pouvoir détecter des failles de façon extrêmement rapide, la véritable solution, c'est de sortir de ce paradigme de la récolte massive de données et de changer véritablement de logique de système, et qui est que, une nouvelle fois, la meilleure donnée personnelle est une donnée personnelle qui n'est pas récoltée.
Juste pour terminer, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ces données fuitaient. Est-ce que c'est en majorité à cause des fuites de données, ou est-ce que c'est en majorité à cause d'une mauvaise hygiène numérique des détenteurs de crypto? Est-ce que vous avez cette donnée-là?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que parfois, d'ailleurs, les deux peuvent être liés. Mais et d'ailleurs, les fuites de données, il ne faut pas non plus surestimer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas la seule source, nécessairement, si vous voulez, de vulnérabilité. Mais on voit en tout cas, là, si vous prenez depuis le début de 2026, alors on a parlé du nombre d'affaires d'enlèvement de séquestration, on va reprendre aussi le nombre de fuites de données personnelles. Donc je pense que c'est aussi un facteur qui est très important et qui touche l'économie, les entreprises et les administrations de façon transversale et sans aucune discrimination. Si vous voulez.
On y reviendra sur ces sujets, évidemment, dans BFM Crypto. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Romain Chili, partner chez Orwell. Charlie Mérot, cofondateur de la Paris Blockchain Week, qui s'appellera la Signal Week.
Signal Week.
L'année prochaine. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Vous retrouvez dans un instant BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.